Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui ont des difficultés à concevoir un bébé. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux invités du collectif BAMP pour parler des lois bioéthiques. BAMP, c'est l'association des patients et ex-patients de l'AMP, des personnes infertiles, stériles, ayant recours aux techniques d'AMP. C'est une association de parents et de futurs parents d'enfants nés via l'AMP et l'AMP don de gamètes. C'est également une association reconnue d'utilité publique. Et donc pour ce faire, je suis accompagnée aujourd'hui de Virginie, qui est cofondatrice et présidente du collectif BAMP, et de Stéphanie, qui est référente BAMP dans le département du Val d'Oise en région parisienne. Bienvenue Virginie et Stéphanie, comment allez-vous ?
Bien, bonjour, ça va ?
Très bien, merci. Bienvenue de nous donner la parole.
Avec grand plaisir. Alors, avant de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter l'une et l'autre, s'il vous plaît, peut-être expliquer votre rôle et comment est-ce que vous êtes amenée à, enfin, comment est-ce que vous avez été amenée à vous investir dans BAMP?
Donc, moi, je suis Virginie. J'ai 50 ans, mais en fait, j'ai essayé d'avoir des enfants. Enfin, j'avais envie d'avoir des enfants déjà quand j'avais 20 ans. Et finalement, mes enfants sont nés, j'en avais 42. Donc, avec un petit parcours d'AMP, entre guillemets, puisque j'ai rencontré des médecins qui m'ont, j'avais 37 ans, et qui m'ont dit, vous êtes jeune, arrêtez d'y penser, ça va venir. Voilà. Ça me semblait un peu inquiétant de dire ça au vu de mon âge et au vu des années d'essai que j'avais avant. Et donc, j'étais très en colère contre le système médical, contre ma propre situation, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse changer les choses en France au sujet de l'assistance médicale à la procréation. Et donc, rapidement, après que mes enfants soient nés, j'avais un blog avant qu'ils naissent déjà, et dans ce cadre-là, j'avais rencontré d'autres femmes qui étaient aussi en parcours d'AMP, et on s'était rencontrées aussi dans la vie réelle pour se dire que ça n'allait pas et il fallait essayer de faire quelque chose. Et donc en 2013, on a fait avec une jeune femme qui à l'époque habitait en Hollande, on a fait un blog qui s'appelait BAMP. Et pour essayer de voir si les idées que nous, on avait sur il faut changer la loi, il faut changer les représentations, si ça intéressait d'autres personnes. Et donc, on a fait le blog au printemps 2013. Et très vite, il y a eu des gens qui ont trouvé ce projet intéressant et qui ont voulu s'investir. Et donc, on a constitué une petite équipe. Et ensuite, en octobre 2013, donc on a créé l'association.
D'accord, ok. Super, écoute, merci beaucoup. Et toi, Stéphanie, alors ?
Moi, Stéphanie, donc je suis référente du Val d'Oise. Je travaille sur les questions de la bioéthique, du don de gamètes. J'ai rejoint l'association en 2016, étant moi-même en parcours d'AMP à ce moment-là. Nous, on a commencé les essais bébés en 2013, au bout d'un an diagnostic pour mon mari d'azoospermie totale. Et très vite, du coup, on choisit d'avoir recours au don de spermatozoïdes. Donc beaucoup d'attentes, puisque on avait 15 mois d'attente à l'époque à Paris. Et puis on a eu la chance d'avoir un petit parcours d'AMP assez rapide, puisque notre fille s'est implantée après une première insémination, dès la première insémination.
Super.
Voilà. Donc elle est née en 2017. Et puis, suite à ça, moi, j'ai donné mes ovocytes en 2018. Et là, je viens de nouveau d'avoir un petit garçon grâce à de nouveau un don de spermatozoïdes. Bon, là, cette fois-ci, le parcours a été un peu plus long puisque ça a duré à peu près un an. Et c'était la cinquième insémination.
D'accord, félicitations.
Merci.
D'accord.
Les filles, est-ce que vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que BAMP d'ailleurs, est-ce que BAMP, ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est un acronyme?
Oui, ça veut dire blog, assistance médicale à la procréation. Donc ça fait, et ça fait BAMP, et on avait mis 4 points d'exclamation à la fin pour l'objectif, c'était d'essayer de faire du bruit dans le silence de l'infertilité et de faire entendre la voix des personnes infertiles qui étaient assez peu entendues. 2013, je vous rappelle aussi qu'on sortait de la révision de la loi sur le mariage pour tous, où les opposants
opposants
au mariage pour tous étaient aussi opposants à la PMA, et donc au niveau médiatique, on entendait beaucoup ces gens-là. Et moi, je m'étais dit, mais c'est pas possible, je peux pas rester sans rien faire et envisager une société pour mes enfants qui soit fondée sur la haine de l'autre, sur le rejet de l'autre, sur aussi la mauvaise information, parce que à l'époque, c'était quand même la PMA, c'est mal, enfin ça l'est toujours, hein. Mais ouais, la PMA, c'est mal, les enfants qui naissent suite à LAMP ont des problèmes psychologiques. Et je me disais, c'est pas possible, on peut pas laisser entendre que ce point de vue-là. C'était aussi un contexte où les gens infertiles, on n'en parle pas, c'est tabou, c'est secret, les gens gèrent ça à l'interne de leur couple, ils n'en parlent pas à leur famille, enfin. Et on s'est dit, non, là, il faut que ça bouge, donc il faut qu'on se fasse entendre.
Et puis parce que les opposants à la PMA, c'est aussi les opposants à la PMA d'une manière générale et à toutes les personnes infertiles qui ont recours à la PMA, quoi. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'entendre bébé PMA égale bébé OGM. Et ce genre de choses, c'est pas possible d'entendre ça, quoi. Donc, c'était aussi pour pouvoir contrer un petit peu toute cette haine et tout ce rejet, quoi.
Mmh. Et puis moi, j'ai oublié de dire, mais en fait, mes enfants sont nés aussi grâce à un don d'ovocytes qu'on a reçu dans un pays européen, puisqu'à l'époque, en 2010-2011, là où j'habitais, le don d'ovocytes n'était pas encore ouvert au CHU de la région où j'habite. Et donc voilà, on est parti 2 fois à l'étranger pour essayer d'avoir des enfants. Et là, c'est la 2e fois qu'il a fonctionné. Et j'étais un petit garçon et une petite fille qui viennent d'avoir 8 ans.
D'accord. Ah, des jumeaux?
Oui.
Ok.
Bah, vu mon âge.
Et dans quel pays t'étais partie?
C'est en République tchèque.
Très bien, on sera l'occasion, on pourra en rediscuter. Alors aujourd'hui, donc, on voudrait aussi donc discuter des lois bioéthiques. Est-ce que vous pourriez m'aider à définir qu'est-ce que les lois bioéthiques? On en parle beaucoup, de ce qui fait débat, mais finalement, qu'est-ce que c'est que cette loi?
La première a été votée en 94 et l'objectif, c'est de mettre des règles sur tout ce qui concerne le corps et l'embryon. Donc c'est assez vaste, mais ça concerne tout ce qui concerne l'éthique de la médecine par rapport à sur un corps humain, qu'est-ce qu'on peut faire sur un embryon ou pas. Voilà.
Les techniques médicales, elles évoluent au fil du temps et comme en France, on est très regardant par rapport à l'éthique, etc. Et ben, le législateur a voulu faire en sorte qu'il y ait une loi qui encadre les techniques médicales et qui soient revues régulièrement, puisque la technique évolue. Du coup, il faut que les lois puissent évoluer aussi au regard des évolutions de ce que la science nous permet.
Merci pour cette clarification. Et donc, depuis l'année dernière, on est en pleine révision des lois bioéthiques, c'est ça?
Tout à fait.
Alors même, ça a commencé en 2018.
2018, pardon, d'accord.
Et normalement, c'est tous les 5 ans, la révision.
Ok.
Et là, a commencé en la révision de cette loi de 2011, elle a commencé en 2018 avec les états généraux de la bioéthique, qui est une étape où la société dans son ensemble peut donner son avis sur tous les sujets relatifs à la bioéthique. Donc là, il y avait tout ce qui concerne la fin de vie, tout ce qui concerne l'AMP, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle dédiée à la médecine. Il y avait d'autres sujets, enfin il y avait plein de sujets comme ça où on propose à la société de donner son avis. Et ensuite, le travail législatif s'engage, le gouvernement fait un projet de loi, et ensuite les députés et les sénateurs doivent en débattre et voter des évolutions dans la loi. C'est-à-dire qu'on ne repart pas de zéro, donc on repart de la dernière loi, donc de 2011, et on essaye de faire bouger un peu les choses parce qu'il y a des techniques qui ont évolué et la société aussi a évolué.
Donc ok, donc merci de clarifier donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais alors, si j'ai bien compris, la loi de bioéthique, elle est déjà passée côté Sénat, c'est ça ?
Elle est passée une première fois à l'Assemblée nationale.
Pardon, à l'Assemblée nationale.
L'année dernière, en fait. Donc les députés ont débattu, les députés ont écouté un certain nombre d'experts, d'associations. Nous, on a été plus ou moins entendus à différents moments du processus législatif, puisque au début on n'entendait pas trop les associations de patients de l'AMP, c'est-à-dire que ce projet de loi bioéthique, il a été beaucoup orienté sur l'évolution sociétale de la PMA, c'est-à-dire l'ouverture à l'AMP pour toutes, etc., qui est une excellente chose, qui est une chose pour laquelle on milite. Mais nous, ce qu'on trouve, c'est que tout l'aspect médical, des techniques médicales de l'AMP, a été laissé de côté. Et du coup, nous, on a eu beaucoup de mal à se faire entendre. C'est-à-dire qu'au début, les députés, etc., les différentes instances ne nous recevaient pas pour faire entendre la voix des personnes infertiles. Et puis après, à force de batailler, certains nous ont reçus, on a pu rencontrer des députés, etc. Ça, c'était la première étape, donc c'est passé à l'Assemblée nationale l'année dernière. Et ensuite, dans le processus législatif, il faut l'aller-retour entre les chambres. Donc, c'est passé au niveau du Sénat.
Donc, en fait, la première lecture à l'Assemblée nationale, c'était fin d'année dernière. Et à ce moment-là, les médias ont titré « Ça y est, la PMA pour toutes est votée ». Ce n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que la loi avait été votée en première lecture. Donc, il y a des femmes qui se sont présentées au centre d'AMP en disant « Bon, c'est bon, maintenant… prenez-moi pour faire une AMP. » Et les médecins étaient ils pouvaient pas puisque la loi n'était pas votée. Donc, il y a eu, une petite incompréhension comme ça, mais du fait des médias qui disent des choses qui ne sont pas de la réalité. Et donc, la première lecture à l'Assemblée nationale fin d'année dernière, première lecture au Sénat fin février 2020. Et la loi, ensuite, elle doit revenir à l'Assemblée nationale parce que justement, le Sénat et l'Assemblée nationale n'étaient pas d'accord. Et le Sénat, ils ont défait des choses que l'Assemblée nationale avait faites. Donc, l'Assemblée nationale avait dit PMA pour toutes, remboursement. Et le Sénat a dit PMA pour toutes, d'accord, du bout des lèvres, mais alors surtout pas le remboursement. Donc, le texte revient en deuxième lecture et il devait revenir au mois d'avril. Sauf qu'avec l'épisode Covid-19, confinement, tout a été arrêté. Et donc, on se retrouvait avec une loi bioéthique pas du tout aboutie, pas du tout votée. Et avec aucune perspective, puisque le gouvernement disait « Oh là là, on a d'autres choses à traiter. » Voilà. Finalement, il y a un député qui s'est mobilisé pour essayer de que cette loi soit inscrite dans les lois qui seraient étudiées là au mois de juillet par les députés. Donc, la loi est revenue en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle travaille avec des commissions. Donc, il y a un petit groupe de députés qui travaillent en commission sur cette loi-là. Il revoit tous les articles, il les vote, et ensuite, il présente ce texte-là en hémicycle à l'ensemble des députés. Et là, il y a un vote à nouveau. Donc voilà, il y a plein d'étapes comme ça. Donc, la commission spéciale...
On était très, très loin de l'adoption de la loi, en fait.
Très, très loin. Et encore, je suis pas allée au bout du processus. Mm-hmm. Et donc là, la commission spéciale s'est réunie début juillet. Avec le remaniement ministériel, démission du Premier ministre, nomination d'un nouveau ministre, tout a été à nouveau décalé. Ah. Et donc la loi, la deuxième lecture de l'Assemblée nationale doit avoir lieu fin juillet.
D'accord.
Ensuite, ce texte-là, il retourne au Sénat en deuxième lecture, commission spéciale du Sénat, puis vote en hémicycle du Sénat. Mmh. Si le texte qui est voté à l'automne 2020 convient à tout le monde, et ben là on s'arrête et la loi telle qu'elle est, elle passe, le gouvernement peut la promulguer dans les 15 jours. Voilà, mais on peut aussi le Conseil constitutionnel peut aussi être saisi. Donc on se retrouve dans quelque chose. Donc vraiment ça risque la PMA pour toutes c'est quelque chose qui est acquis mais qui ne peut pas être réalisable concrètement avant début 2021, voire printemps 2021.
Waouh, ok, d'accord. Bon, merci.
Donc là, on sera à plus de 9 ans entre la 2011 et 2021, ce qui est un délai énorme et qui est assez inquiétant parce qu'en fait, il y a un décalage énorme qui se crée entre la réalité de la société, les évolutions de la technologie médicale et tout ça, et la possibilité que la loi puisse être réellement applicable. En 2011, la loi de bioéthique avait dit « si vous n'avez pas encore d'enfants, vous pouvez donner vos gamètes ». Parce que tu sais, avant, il fallait avoir déjà oui, des vrai. Enfants. Mmh. C'était en 2011. Sauf que les décrets d'application n'ont rendu cette chose possible qu'en 2016. Donc, il y a eu 5 ans qui se sont écoulés.
Et il y a un retard législatif hallucinant.
Voilà, la loi dit « ok, vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez donner vos gamètes », qui permettait d'augmenter le nombre potentiel de donneurs et de donneuses. Mmh. Mais en fait, il a fallu 5 ans pour que le décret soit voté et qu'on puisse le mettre en œuvre concrètement.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que nous, Stéphanie et moi, on est hyper investis sur cette question-là depuis 2 ans et que des fois, on est un peu affolés du fait que les gens ne se rendent pas compte de l'impact réel de la loi de bioéthique sur l'AMP. Et qu'il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on obtienne des choses et c'est maintenant qu'il faut le faire parce que...
La loi de bioéthique, ça peut paraître quelque chose de très abstrait et de très lointain, mais finalement, mm-hmm. quand on regarde précisément dans ce qui va être voté et dans ce qui est débattu, il y a des choses qui vont avoir des applications très concrètes et des choses pour lesquelles on est très inquiet pour la suite, le futur de l'AMP et des patients infertiles.
Aujourd'hui, juste pour te donner un exemple, aujourd'hui, l'article 1er de la loi de bioéthique, telle qu'elle est là, pas encore, enfin celle qui n'est pas en discussion, mais celle de 2011, l'article 1, c'est l'article qui dit peuvent accéder à l'AMP des couples hétérosexuels en âge de procréer et vivants. Donc ça, c'est ce qui autorise toutes les personnes là, qui sont aujourd'hui prises en charge en France. C'est la loi de bioéthique qui dit qui peut accéder à l'AMP. Elle dit aussi quelles techniques sont possibles ou pas. Donc c'est vraiment, on se dit la loi c'est lointain et tout ça. Non, la loi c'est elle qui te dit si tu peux accéder ou pas à l'AMP et si tu peux faire telle ou telle technique jusqu'à tel âge, remboursé ou pas remboursé. Et c'est pour ça que c'est aussi, que nous on est aussi investis parce que c'est vraiment très important.
Bien sûr, d'accord. Et alors justement, donc vous dites que ça va donc décider de beaucoup de choses sur la PMA. Est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu justement dans les grandes mesures sur lesquelles vous êtes mobilisés par rapport à cette loi de bioéthique? Vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Alors juste vu que j'ai parlé de l'article 1 juste avant, je peux te dire l'article 1 dans la nouvelle loi. L'article 1 maintenant, il dit l'AMP est destinée à répondre à un projet parental. Ça, c'est le grand changement, c'est-à-dire qu'avant, il fallait être dans une infertilité diagnostiquée.
Ah, oui. Mmh.
Maintenant, cette notion d'infertilité, elle disparaît et elle est remplacée par la notion de projet parental.
Ce qui fait que du coup, ça s'ouvre aux couples homosexuels, du coup, c'est ça ?
Et aux femmes seules.
Après, dans l'article 1, il y a l'autre ligne, c'est « tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou une femme non mariée ont accès à l'AMP après des entretiens particuliers avec l'équipe médicale. Et cet accès ne peut faire l'objet d'aucune discrimination ni en fonction de l'orientation sexuelle ni en fonction de la situation matrimoniale. » L'article 1 est complètement modifié et il ouvre effectivement l'accès à l'AMP aux femmes sans partenaire masculin.
Ok, super. Alors, est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez d'ailleurs me parler un petit peu? Vous avez écrit notamment une lettre que vous avez envoyée aux parlementaires et aux ministres mi-juin, donc il y a à peu près un mois au moment où on se parle, où vous avez différentes revendications. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer un petit peu?
Oui, alors ça, on l'a envoyé mi-juin, mais on l'avait déjà envoyé avant, en mars, en février, en janvier, l'année dernière. Parce que, d'accord. Comme disait Stéphanie tout à l'heure, les questions sociétales étaient très mobilisées sur les questions sociétales et pas du tout attentifs aux questions médicales. Et nous, dans les choses qu'on demande pour améliorer l'assistance médicale à la procréation, il y a notamment le diagnostic préimplantatoire des embryons anaploïdes. Donc, c'est les embryons qui n'ont pas le bon nombre de chromosomes, c'est-à-dire qui ne donnent rien du tout ou des fausses couches. Dans ces embryons aneuploïdes, il y a une toute petite partie des embryons qui sont viables et qui sont des embryons qui font des bébés qui peuvent être porteurs de la trisomie 21, de la trisomie 13 ou de la trisomie 18, qui sont des aneuploïdies viables, mais ça représente une toute petite partie. La grosse majorité des embryons qu'on arrive à obtenir en FIV ne font rien ou font des fausses couches. Voilà. Donc nous, on aimerait que le DPIA puisse être autorisé pour des indications dans lesquelles elles sont reconnues mondialement comme efficaces, c'est-à-dire les femmes de plus de 35 ans, parce qu'on sait que la qualité ovocytaire chute avec l'âge, les femmes qui ont beaucoup de fausses couches ou pas du tout d'accroche. Le DPI est autorisé depuis 1994, je crois, pour les personnes qui ont une maladie génétique qui est déjà connue. Et on aimerait que pour les personnes en parcours de FIV qui font face à de nombreux échecs, on puisse avoir ce diagnostic du DPIA qui soit autorisé.
Ouais, c'est quelque chose d'ailleurs. Moi, je suis aux États-Unis, qui est proposé en routine, qui est proposé très facilement ici, effectivement.
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en France, selon la Cour des comptes, 4 FIV sur 5 sont des échecs. Donc, c'est énorme. On a à notre disposition cet outil qui pourrait permettre d'améliorer les résultats, en fait. Après, pas pour tout le monde, on en est conscient. C'est juste dans certains cas, en fonction de l'âge de la femme, en fonction du nombre d'échecs, etc. Mais si on a cet outil qui est à disposition et qui permettrait d'améliorer quand même la prise en charge, qui permettrait de diviser le nombre de fausses couches, d'implanter moins d'embryons, d'éviter les grossesses gémellaires, etc. Pourquoi on se refuserait de pouvoir l'utiliser, en fait?
Et puis, d'un point de vue très pragmatique pour la Cour des comptes, enfin, puisque la PMA est remboursée par la Sécurité sociale en France, c'est aussi dans l'intérêt finalement presque du contribuable, en fait, d'aider ces femmes à arriver à leur projet parental plus rapidement.
Rapidement possible, exactement.
C'est un argument qu'on a avancé, c'est-à-dire que arrêtons de faire des FIV pour rien, parce qu'aujourd'hui on fait en France des FIV pour rien, on réimplante des embryons pour rien, alors qu'on pourrait très bien optimiser un peu, dans certaines indications, la technique. Parce que le DPIA, il permet de raccourcir le délai d'obtention d'une grossesse. Il permet d'arrêter de conserver des embryons, parce qu'aujourd'hui on conserve des embryons qui sont aneuploïdes. Les cuves sont pleines d'embryons.
Ouais, donc ils n'ont aucune chance. Ouais.
Aujourd'hui, on fait des transferts et après on dit aux gens bonne chance. Attendez, on fait de la médecine ou on fait de la croyance, la croyance un peu ésotérique sur bonne chance. Et donc nous on a vraiment.
Le débat il se cristallise en fait autour de, parce qu'on nous targue d'être d'eugénisme, de plus vouloir que des enfants trisomiques voient le jour, etc.
C'est ce que j'allais vous dire. Il y a des vidéos vachement dures qui passent en ce moment.
Ouais, exactement. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il faut remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'en fait, en France, il existe la possibilité de faire un diagnostic quand une grossesse est lancée. Par rapport à la trisomie 21, par exemple, je vais prendre cet exemple puisque c'est ça qui cristallise un petit peu tout. Une fois qu'on est enceinte, une fois qu'on a obtenu la grossesse, on nous propose de faire le diagnostic de la trisomie. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic, il y a la possibilité pour le couple qui a connaissance de cette pathologie de décider ou non de faire une interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois de grossesse, en fait. Donc, et il faut savoir dans les chiffres que une fois que ce diagnostic a été mis en place et qu'il est positif, il y a 95% des couples qui décident de mettre un terme à la grossesse. Voilà, ça c'est une réalité. Donc pourquoi on fait subir ça à des couples qui ont subi des parcours d'AMP pendant longtemps, on leur demande d'obtenir une grossesse, ensuite de pouvoir faire un diagnostic et ensuite de prendre cette décision, alors que la décision elle pourrait se prendre en amont, en fait. Et ça pourrait éviter, ça pourrait économiser du temps, de la souffrance surtout, enfin des choses, qui sont très très lourdes.
Et sans remettre en question les principes de base de la médecine, qui sont l'information du patient et le consentement.
C'est ça. Ce que je voulais juste confirmer, c'était que nous, ce qu'on demande, c'est juste d'arrêter d'infantiliser les patients et de juste, on fait un diagnostic avant qu'il puisse y avoir une implantation, avant qu'il puisse y avoir une éventuelle grossesse. Ensuite, c'est la responsabilité des patients de décider s'ils implantent ou pas cet embryon aneuploïde ou pas. Et il y a des couples qui choisiront d'implanter, il y a des couples qui choisiront pas d'implanter, mais c'est à nous de décider en fait.
En connaissance de cause, quoi.
Exactement, tout à fait.
Non, mais c'est bien que vous clarifiez tout ça. Une autre mesure dont on voulait discuter, c'est la mention du don de gamètes sur l'acte de naissance. Est-ce que vous pourriez m'expliquer d'ailleurs qu'est-ce qui se fait actuellement et qu'est-ce que cette loi donc essaye de mettre en place et pourquoi en fait?
Alors actuellement, le don de gamètes en France est ouvert aux couples hétérosexuels mariés ou non mariés. Les couples hétérosexuels doivent actuellement aller chez le notaire en fait avant même la conception de l'enfant pour pouvoir dire qu'ils ont recours au don de gamètes, et ce qui permet en fait de sécuriser de manière définitive la filiation de l'enfant à naître. On ne sait pas s'il y aura un enfant à naître ou pas, mais en tout cas, si jamais un enfant est issu du don de gamètes dans ce couple, personne ne peut remettre en cause la filiation de ses parents. C'est la filiation la plus sécurisée de France depuis 1994. C'est-à-dire que si jamais l'homme, par exemple, est stérile et qu'il divorce en cours avant la naissance ou quoi que ce soit, ça a beau l'enfant qui naît a beau ne pas avoir ses gènes, l'homme ne peut pas... dire que ce n'est pas son enfant. De toute façon, cette filiation est établie de manière définitive. Et puis, un donneur qui se réveillerait, qui voudrait faire valoir une éventuelle paternité sur un enfant qui est issu d'un don parce qu'il a les mêmes gènes, c'est pas possible non plus, puisque la filiation, elle est bétonnée pour le père de cet enfant, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est acté depuis pas mal d'années et qui fonctionne très bien. Ce qu'il y a, c'est que au début du don de gamètes, il y a eu tout un courant. Enfin, il y a eu des choses qui ont été faites pour organiser le secret par rapport au don. Donc, en fait, il y a eu beaucoup, enfin, un certain nombre de couples qui ont choisi de cacher l'information à l'enfant issu du don de gamètes, ou ils ont choisi, ou alors ils y ont fortement été incités par les médecins à un moment donné, ou alors surtout ils savaient pas trop comment faire avec cette question, puisque le don de gamètes c'est quelque chose qui est quand même assez récent. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui touche qui vient nous toucher aussi par rapport à la stérilité, par rapport, on se pose 15 000 questions, etc. Et étant donné que le sujet était extrêmement tabou, encore plus qu'aujourd'hui, ben on se retrouvait seul face à ces questions et on savait pas trop comment faire. Et du coup, même des couples qui auraient voulu en parler à leur enfant, bah ne sachant pas comment faire, ils l'ont pas fait, et puis l'enfant ne l'a pas su ou il l'a appris très tard. Donc, il y a eu tout un tas de témoignages d'adultes qui étaient des enfants issus d'un don de gamètes, qui l'ont appris très tard, qui l'ont mal vécu, etc. Et donc, il y a eu tout un courant de personnes qui ont milité pour que les secrets soient plus, ne puissent plus avoir
plus de secret,
lieu dans les familles. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu des travaux qui ont été menés et une proposition qui a été faite que la mention, qu'il y ait une mention qui soit inscrite sur l'acte de naissance des enfants issus d'un don de gamètes, pour plus laisser le choix aux parents que de cacher l'information, en fait. C'est-à-dire, l'idée, c'était, si c'est écrit sur l'acte de naissance, peut-être que comme ça, les parents, ils en parleront un peu plus à leurs enfants, ils auront peur que ça soit découvert de toute façon à un moment donné, donc ils le dévoileront. Nous, on n'est absolument pas d'accord avec ce concept, déjà parce que, en fait, ces études et ce postulat, il part de constats qui ont été faits sur les premières générations de familles issues d'un don, donc c'était un peu expérimental au début, etc. Maintenant, on est...
C'est très infantilisant aussi, hein, pour les parents.
Exactement, c'est très infantilisant pour les parents, tout à fait. Et nous, ce qu'on dit, c'est que maintenant, on est des nouvelles générations de parents, on a aussi appris, et puis on apprend toujours, en fait, de ce qui a été fait par le passé. Et nous, on milite pour que les parents qui ont des enfants grâce à un don de gamètes donnent l'information à leurs enfants le plus tôt possible, qu'ils en parlent le plus possible. Enfin, pas en parler le plus possible, c'est pas une information qui doit être omniprésente dans la famille, mais en tout cas que l'enfant ait cette information à sa disposition très tôt. Et ce qu'on dit, c'est faisons de la pédagogie auprès des parents, expliquons-leur que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir cette information, etc., plutôt que d'infantiliser les parents. Et surtout que la mesure qui est prévue, elle obligera absolument pas les parents qui ont envie de le taire, parce qu'en fait, ça apparaît sur un acte de naissance. L'acte de naissance, on n'y a pas accès tous les 4 matins. Souvent, on y a accès une fois qu'on est devenu adulte. Moi, personnellement, j'ai demandé mon acte de naissance dans un cadre professionnel parce qu'on me l'a demandé, vous imaginez le traumatisme que ça aurait été si au boulot on me demande l'acte de naissance, je le demande dans ce cadre-là, à 30 ans, et puis je me rends compte qu'en fait, je suis issue d'un don de gamètes dans ces circonstances-là. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucune plus-value que d'inscrire ça sur l'acte de naissance, sauf de stigmatiser les enfants qui sont issus d'un don de gamètes. Enfin, pour nous, on dit, voilà, nos enfants, on est des familles comme les autres et on n'a pas besoin que nos enfants aient une ligne de plus sur l'acte de naissance, quoi.
Et là, est-ce que le projet de loi tel qu'il est arrivé l'été dernier, l'objectif, c'était de mettre cette mention sur l'acte de naissance intégrale de tous les enfants, que les parents soient hétéros, homo. Les femmes seules, elles étaient hors cadre parce que le législateur disait que si jamais elle rencontre un homme, elle pourra, voilà. À partir de l'été dernier, on a commencé à travailler avec certaines associations LGBT, certaines associations d'adultes nés d'un don, contre cette mention, en disant il faut arrêter, parce qu'en plus il y avait des menaces, c'est-à-dire que si tu le dis pas à ton enfant, au niveau du tribunal, quelqu'un peut aller dire à ton enfant que voilà, enfin bref, c'était vraiment règne de la menace et de la, les parents sont des irresponsables, c'était ça, hein, les parents hétéros sont des menteurs et des irresponsables, et donc il faut les contrôler et il faut imposer par la menace des choses, alors que nous enfin, pour avoir beaucoup de parents qui ont des enfants nés via un don de gamètes autour de nous, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire que les enfants sont informés, la famille est informée, les amis sont informés. Enfin, cette question du secret, elle n'existe plus. On s'est beaucoup battu l'été dernier. Finalement, le ministère de la Justice a dit OK. On change rien pour les hétéros. Mais on va le laisser pour les lesbiennes, parce que les lesbiennes, il faut quand même les contrôler un peu, faut quand même, voilà. Ce n'est plus prévu pour les hétéros, bien que les gens les lobbies qui veulent absolument cette mention restent très actifs et continuent à vouloir imposer ça pour les hétéros. Donc là, on se bat avec les associations LGBT qui n'en veulent pas, il y a certaines associations LGBT qui en veulent, d'autres qui n'en veulent pas, bref, pour que l'égalité de l'accès aux soins pour les femmes
soit totale, quoi.
Voilà, que l'égalité soit totale, allons jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut que la filiation des enfants qui naissent via un don, ce soit sur le même principe que ce qui se fait pour les hétéros. C'est-à-dire, tu vas...
Que ce soit calqué sur ce qui se passe actuellement, en fait.
Et qui est très simple. Mais Mais sauf que là, ils ont pas le courage de la simplicité. Ils sont dans une espèce de truc pour, d'un côté, punir les hétéros qui mentiraient à leurs enfants, de l'autre côté, essayer de contrôler un peu quand même les lesbiennes et tout ça. Alors que il suffit de dire...
Oui, je suis pas sûre que ce soit du contrôle, mais c'est aussi quand même, moi, je sens une sorte de, une forme de réticence quand même. Il faut quand même pas mettre tout le monde dans le même panier. Si on a un couple de femmes, on a un couple des femmes et on n'est pas un couple homme-femme et il y a quand même une différence entre les deux. Alors que nous, on milite pour dire, on est des familles, on est tous des familles et peu importe que ce soit un papa et une maman, peu importe que ce soit avec don gamète, sans don gamète, on est tous des familles et on est tous pareils et arrêtez de vouloir nous stigmatiser, nous ranger dans des cases.
Ouais, c'est-à-dire que là, si tu veux, la loi, elle est pensée pas en termes bioéthiques, mais en termes d'orientation sexuelle. C'est-à-dire l'orientation sexuelle détermine ton accès au droit, détermine...
Ça fait un peu fichage quand même tout ça.
Exactement.
Voilà, et donc nous, nos enfants... On considère qu'ils n'ont pas à être stigmatisés ni en fonction de l'orientation sexuelle de leurs parents, ni en fonction de la santé reproductive de leurs parents. Non, voilà. Et que le travail d'information des enfants, d'éducation des enfants dans le cadre du don, c'est de la responsabilité des familles et des parents. Et il n'y a pas besoin de mettre une mention... sur un acte de naissance.
Non, mais bien sûr, des secrets de famille, en plus, on en trouve toujours.
Oui, et ça ne changerait rien.
La PMA ou pas, quoi. Donc,
exactement.
Bien sûr.
Et ça ne changerait rien, comme disait Stéphanie, des parents qui n'auraient pas compris l'intérêt d'informer l'enfant, qu'il y ait une mention ou pas de mention, ils ne le diraient pas.
Ouais, bien sûr.
C'est pour ça qu'on milite plus pour de la pédagogie auprès des parents, qu'ils y trouvent du sens, qu'ils y trouvent de l'intérêt et que du coup, ils le fassent naturellement.
Exactement. Bon, merci d'avoir clarifié tout ça. Alors, on va pas pouvoir parler de toutes les mesures en cours, mais j'aimerais bien qu'on parle aussi de l'ouverture de toutes les techniques d'AMP aux centres privés. Vous pouvez m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit ici ?
Alors, en France, l'AMP se fait dans le secteur public et dans le secteur privé. Et le secteur privé représente plus de la moitié de toutes les tentatives de FIV qui sont faites en France sont faites par le secteur privé, de l'AMP. Le secteur privé, c'est des gens, enfin c'est des professionnels qui sont formés comme les autres, qui des fois travaillent dans le public et inversement. Enfin, c'est des gens qui sont contrôlés par les instances qui contrôlent l'AMP. L'AMP, c'est l'activité la plus contrôlée de France. Sauf que là, l'ouverture de l'AMP à toutes les femmes et ainsi que l'autoconservation sociétale, la loi pour l'instant souhaite le réserver au secteur public. Donc le secteur public ferait l'AMP intraconjugale, l'AMP avec don de gamètes, l'autoconservation sociétale et l'AMP pour les femmes seules et lesbiennes. Et les gens qui font de l'AMP en France connaissent les délais de prise en charge dans le secteur public aujourd'hui en France. Les délais qui sont assez longs. Donc avec l'ouverture de l'AMP, les files actives vont augmenter. Et nous, les professionnels de l'AMP, qu'ils soient du secteur public comme du secteur privé, militons pour que toutes les centres d'AMP puissent faire toutes les activités de répartir la file active des patients et aussi pour que l'accès aux soins soit facilité en niveau territorial. Mmh. C'est-à-dire que si tu dois l'AMP avec don de gamètes, il n'y a que 29 centres qui peuvent le faire en France. Ce sont les SECOS. Donc les lesbiennes, elles seraient, et les femmes seules, ne pourraient aller que dans un des 29 centres.
Ouais.
Il y a certains territoires où il n'y a pas de SECOS. Il y a certains territoires en France, certains départements en France, où il n'y a pas de secteur public de l'AMP. Il n'y a que du secteur privé. Donc en termes d'accès aux soins au niveau de ton territoire, il y a des départements ou des endroits ou des territoires d'outre-mer, par exemple, aussi, qui ne pourraient pas accéder aux soins parce que ça serait réservé qu'au public et il n'y a pas le public. Et donc, on milite pour que que tous les centres puissent accueillir les patients, tous les patients.
Ouais, ça.
Et il y avait, alors Virginie, tu vas me dire si je me trompe, mais il y avait quand même quelque chose d'inquiétant à un moment donné dans la loi, alors c'est peut-être plus le cas, mais à un moment donné, dans le texte, il a été écrit qu'il n'y avait que le secteur public qui pouvait conserver des gamètes. Et ça, c'était très inquiétant puisque, en fait, conserver des gamètes, à partir du moment où on fait une FIV, on est obligé de conserver des gamètes. C'est-à-dire, quand on fait une ponction, on prend des ovocytes, les spermatozoïdes, on en congèle un peu au cas où, le jour de la ponction, il soit pas satisfaisant, etc. Donc, tous les centres conservent des gamètes. Il n'y a pas que dans le cadre du don qu'on conserve des gamètes. S'ils introduisaient ça dans la loi, ça veut dire que plus aucun centre privé d'AMP ne pourrait faire de FIV ce qu'il pouvait faire actuellement. On leur enlevait, en fait, cette possibilité-là. Puisqu'ils pouvaient plus conserver d'ovocytes, d'embryons ou quoi que ce soit.
C'est
et alors
ça,
là, on s'est alarmé parce que on s'est dit, mais si plus aucun centre d'AMP privé ne peut faire de FIV, enfin, où va-t-on? L'AMP en France va plus pouvoir être mise en œuvre, en fait.
Oui, mais c'est pour ça que, à l'automne dernier, il y a des centres privés qui se sont constitués en collectif, hein, pour faire entendre leur point de vue et pour dire, mais non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Enfin, c'est un retour en arrière. C'est vraiment, de toute façon, l'année dernière, les débats étaient vraiment, il y avait vraiment une, les patients de l'AMP étaient diabolisés parce qu'ils voulaient du DPIA et ils allaient tuer des bébés trisomiques 21. Les professionnels de l'AMP étaient diabolisés par la ministre de la Santé et par certains députés parce qu'ils voulaient ouvrir toutes les techniques et tout ça. Enfin, on était dans une espèce d'accusation permanente de l'assistance médicale.
Et puis parce qu'ils étaient targués, ils étaient aussi pointés du doigt comme voulant faire de la marchandisation du corps humain. Il faut aussi arrêter de diaboliser ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les centres privés en France, ils sont contrôlés tout autant que les centres publics, et c'est l'activité la plus contrôlée de France, comme le disait Virginie. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas pratiquer les tarifs qu'ils veulent. Les dépassements d'honoraires, ils sont encadrés par la loi, ils sont encadrés par les instances. Donc, faut aussi arrêter d'infantiliser les gens à tous les niveaux. C'est pareil, les professionnels.
Et ils se sont même engagés, et encore là, récemment, ils avaient écrit un courrier au ministre pour dire, nous, si pour pouvoir vous rassurer, on est prêt à s'engager à ne pas faire de dépassement d'honoraires ni sur le don de sperme, ni sur l'autoconservation sociétale.
Ouais.
Voilà. Il y a vraiment, dans la société française et dans les instances politiques et dans les courants politiques, une diabolisation très importante de l'assistance médicale à la procréation.
C'est exactement ce que j'allais te demander, ouais. C'est d'où est-ce que ça vient, cette diabolisation? Enfin, quelle est l'historique qui pourrait justifier finalement une telle méfiance, une telle, un tel sentiment, ouais, de un manque de confiance totale?
C'est les tensions historiques sur d'un côté les aspects religieux, c'est-à-dire que on doit faire une famille dans le cadre du mariage, on doit avoir des enfants dans le cadre du mariage, et l'AMP est venue remettre ça en question parce que tu pouvais faire des enfants dans un laboratoire, parce que il y a des courants idéologiques et politiques qui défendent des choses. Ils vont contre l'AMP, c'est-à-dire qu'il faut pas manipuler le vivant. Et quand tu mets en relation des gamètes, tu manipules le vivant. Et ces courants-là, idéologiques et politiques, ils sont très cristallisés sur le début de la vie et sur la fin de vie. Tout ce que tu évoquais tout à l'heure, Anne-Fleur, des vidéos qui circulent sur contre le DPIA, c'est ça. Si tu fais un peu l'historique, et ben tu tombes sur des courants qui sont totalement liés à des courants religieux et extrémistes.
Et il y a des choses quand même, enfin moi ça m'est déjà arrivé d'entendre encore ça, même maintenant en 2020. Si naturellement tu peux pas faire des enfants, finalement c'est peut-être que tu devrais pas en avoir, quoi.
Ouais, d'accord.
C'est quand même quelque chose d'hyper violent.
Ouais, c'est clair.
Oui, et on sait très bien que l'infertilité, ok, c'est quelque chose d'intrinsèque aux humains, parce qu'on est le mammifère les moins fertiles de tous les mammifères. Mais on rajoute à ça toutes les problématiques environnementales, les conditions de vie moderne qui impactent de plus en plus et de plus en plus fortement la fertilité humaine.
Tout à fait, ouais.
Donc on peut aussi très bien dire ok, bah on laisse tout tomber, on va se retrouver à trois Pékins sur la Terre parce qu'on n'arrivera plus à se reproduire. Donc voilà, c'est vraiment une lutte entre des manières d'envisager la vie et de voir la vie qui sont complètement différentes. Ouais.
Et du coup, je voudrais quand même préciser, pour que les gens se sentent moins seuls, l'infertilité, c'est un couple sur 6, voire un couple sur 5 maintenant.
Minimum,
ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, le nombre de personnes concernées par l'infertilité dans le monde.
Non, c'est clair, c'est clair. J'ai plusieurs invités comme ça qui m'ont dit lors de témoignages, c'est que finalement, peut-être que elles ont déjà rencontré, peut-être qu'elles ont des amis finalement dans leur entourage qui sont passés par des parcours de PMA, mais on n'en parle tellement pas qu'on ne le sait pas.
Bien sûr, exactement. Mais moi, à partir du moment où j'ai commencé à dire dans mon entourage que on était infertile et que on allait à la PMA, on allait commencer la PMA, j'ai un nombre d'amis ou de connaissances qui me disent « Ah oui, mais moi je suis concernée, tu sais, j'ai rencontré un médecin, tiens, j'ai fait des diagnostics, et puis il y a la sœur de un tel, la mère de machin. » À partir du moment où on en parle, les langues se délient parce que là, on a ce point commun, donc on peut en parler, mais sinon, c'est tu, en fait.
Non, c'est clair.
C'est honteux, pareil, c'est tu. Et...
Depuis qu'on existe, là, alors c'est peut-être un peu, on se jette des fleurs, mais les choses ont un petit peu changé quand même sur la...
Mais c'est génial,
on en parle de plus en plus.
De dingue, c'est clair.
Il y a un vrai mouvement au niveau sociétal, c'est-à-dire, tu vois, les podcasts, il y en a plein qui parlent de ça, les gens témoignent publiquement. Il y a une vraie libération de la parole, mais il faut qu'on aille encore plus loin. Il faut qu'on aille encore plus loin parce qu'en face, les gens qui sont contre ça, ils sont très puissants et ils sont très structurés depuis très longtemps, ils ont beaucoup de moyens et tout ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous, on essaye de fédérer le plus possible les gens qui sont d'accord avec ce qu'on propose, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Parce qu'il y a une vraie lutte. Il y a une vraie lutte. Et là, cette loi-là, ça le montre vraiment. C'est-à-dire qu'on va passer peut-être à côté du DPIA, parce qu'il y a des gens qui pensent que, à cause du DPIA, on risque de tuer des bébés trisomiques 21. Qui n'est pas du tout. Ouais. Il n'est pas du tout ça, mais pas du tout. Ouais, non, mais... Donc, il y a un vrai besoin
d'éducation aussi. Alors, je voudrais vous demander justement, comment est-ce que vous vous mobilisez sur la durée? En ce moment, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous éduquez, vous faites vraiment de la pédagogie auprès de l'Assemblée, du Sénat? Enfin, comment ça se passe?
Actuellement, aujourd'hui, il y a nous ce qu'on fait, mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est que les gens peuvent se mobiliser. C'est ça qui est important. Nous, on continue notre travail de sensibilisation, effectivement, auprès des députés. On prend des rendez-vous auprès des sénateurs. On a des rendez-vous dans les médias pour expliquer les choses aux gens, pour expliquer les enjeux des débats, etc., de ce qui va être voté. Ça, c'est une chose. Mais il y a la mobilisation collective qui est très forte. et qui est très importante. Et c'est donc toutes les personnes concernées par l'AMP qui peuvent agir à leur niveau. C'est des fois des choses qui sont très simples. On a une campagne Factio pour interpeller nos élus. Donc, c'est-à-dire là, il suffit de cliquer, on met son adresse mail, on clique et ça va envoyer un mail automatique aux députés, aux sénateurs de la circonscription de la personne qui interpelle et aux ministres maintenant. Donc plus les politiques vont être interpellés par toutes les personnes infertiles, et ben plus ils seront sensibilisés à cette question et plus on aura de poids par rapport aux personnes qui sont contre et qui font un très fort lobby avec beaucoup de moyens, parce que nous on n'a pas de moyens malheureusement. Donc il y a cette campagne Factio qui est hyper importante. Sur notre blog, on a aussi Virginie, elle a fait des lettres types pour que chaque patient puisse envoyer s'il veut à son député la lettre directement,
génial,
nominativement.
D'accord.
Voilà, on peut en s'appuyant sur cette lettre, les patients ils peuvent aussi demander des rendez-vous en direct avec leur député. Ça marche vachement parce que la rencontre humaine, ça peut être très riche et ça peut beaucoup porter. C'est-à-dire que des fois, ça peut être une rencontre qui va interpeller ce député. Il va être sensible à notre question. On lui raconte notre histoire. On lui raconte ce qui se passe pour nous et pourquoi c'est important de voter en ce sens la loi. Du coup, là, tiens, ça va faire tilt pour lui. Il va peut-être voter différemment à l'Assemblée nationale. C'est un pouvoir collectif qu'on sous-estime, en fait, qu'on connaît pas. Et c'est très, très important. Mmh. Chacun, à son niveau, peut faire quelque chose.
D'accord. Et alors, concrètement, il nous reste combien de temps là pour essayer de se faire entendre? Aujourd'hui, au jour où on se parle, on est le 14 juillet. Vous m'avez dit donc que le prochain examen du texte de loi, c'est fin juillet, c'est ça?
27 juillet.
27 juillet, d'accord.
27 juillet pour la deuxième lecture Assemblée nationale, ouais. Parce qu'après, on aura encore des actions à faire pour sensibiliser les sénateurs.
D'accord.
Là, il nous reste 2 semaines. Donc, la mobilisation, elle est là. Vraiment de faire entendre le point de vue des personnes infertiles et leurs besoins et leurs demandes au sujet de l'amélioration de la prise en charge. Et la loi bioéthique, elle est là pour ça, pour essayer de proposer des améliorations qui restent dans le cadre éthique, évidemment. Et voilà, c'est... Ensemble, vraiment, on peut y arriver. Enfin, moi, je crois qu'on peut y arriver. Sinon, je ferais pas tout ce que je fais depuis 7 ans. Et il y a des choses qui ont marché. Et vraiment, c'est ça. C'est plus on sera nombreux à interpeller les députés, à aller les voir, à leur parler, plus on peut avoir d'impact.
Ouais.
Mais écoute, et 2 semaines, c'est énorme, 2 semaines. Là, il y a encore 15 jours, on se disait, oh là là, on a 1 semaine pour les mobiliser. Là, on a d'un seul coup, avec le remaniement, on a ouais. Eu un temps fou. C'est ouvert devant nous.
Mais on se rend compte à quel point aussi, effectivement, le fait que ce soit pas facile d'en parler, etc., les gens se sentent un peu loin de tout ça, en fait. C'est pour ça que c'était important pour nous d'essayer d'expliquer clairement les impacts de cette loi de la bioéthique, parce que les patients en parcours d'AMP, ils ont besoin de parler, ils ont besoin, voilà, ils créent des profils sur les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir échanger avec d'autres patients, rencontrer des gens qui sont dans leur situation, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à intéresser les gens à cette question, et nous, le message qu'on voulait faire passer, c'est voilà, chacun à son niveau peut agir. Mobilisez-vous, juste un petit clic, voilà, ou un petit mail à envoyer. C'est pas beaucoup de temps, mais ça peut avoir beaucoup d'impact pour la suite de vos parcours. C'est comme ça qu'on a obtenu les autorisations d'absence sur son lieu de travail pour pouvoir aller au rendez-vous de l'AMP. C'est grâce à ces mobilisations collectives. Et donc là, il y a un nouvel enjeu. On a besoin de tout le monde.
Et pour moi, si je peux rajouter quelque chose, Anne Fleur, sur la loi et un point positif, c'est que dans notre association, elle se bat depuis le début pour que l'infertilité et la fertilité deviennent un sujet de santé publique, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc, sujet de santé publique, ça veut dire plan de communication, plan de formation, d'information, de sensibilisation. C'est quelque chose qu'on défend. Alors, René Friedman, il défend ça avec nous. Les médecins, ils défendent ça avec nous. L'année dernière, on avait fait une petite campagne sur la sensibilisation et l'information des 18-25 ans. Pour nous, c'est un sujet essentiel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens soient informés. Et dans la loi de bioéthique, en première lecture à l'automne dernier, on a obtenu, grâce à notre mobilisation et à notre manière de faire des choses auprès des députés, un amendement qui a été voté et qui propose que soit mis en place un plan fertilité sur le même modèle que le plan cancer. Donc avec des mesures nationales, pluriannuelles, de formation, d'information du grand public, des professionnels, voilà, sur qu'est-ce que c'est que la fertilité, comment il faut lutter, comment il faut se protéger, avec une coordination de tous les ministères concernés, donc éducation nationale, santé, écologie, recherche, pour qu'on puisse mettre en place des politiques de lutte contre les causes d'infertilité, qu'elles soient comportementales, environnementales, et d'informations sur qu'est-ce que c'est que la fertilité, comment se protéger, comment éviter de recourir à l'AMP. Voilà. Et ça, on a obtenu ça. On s'y attendait pas du tout. Et cet amendement, il était et il est toujours là dans la deuxième version. Nous, on compte vraiment sur ce plan fertilité et on va pas l'oublier, cet amendement, et on le laissera pas passer.
Ouais.
Et c'est pour nous c'est positif parce que c'est.
Ouais, c'est clair.
Un début de prise de conscience un peu collective sur OK là les gars, notre fertilité humaine globale, elle est quand même sacrément menacée. Mmh. Et donc il faut qu'on arrête de dire que ça concerne quelques couples, ils ont qu'à se débrouiller tout seuls dans leur coin. Mmh. Il faut mettre en place des politiques publiques, il faut mettre en place de l'information pour les jeunes générations.
C'est clair. Non, mais c'est clair. Écoutez, franchement, je vous dis un grand bravo à toutes les deux et à tout le monde dans le collectif. Vraiment, vous faites un boulot extraordinaire là-dessus. Et puis, la communauté, comme tu le dis en général, les gens commencent à se bouger et c'est génial. Les mentalités commencent à évoluer. Il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est, mmh. c'est prometteur et c'est encourageant. Pour finir, les filles, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, on a bien compris que si on veut se mobiliser, il y a plein d'outils qui sont en ligne sur votre site. Si on veut vous contacter, si on veut devenir peut-être membre du collectif BAMP pour faire encore plus de bruit, donc comme vous le disiez, comment ça se passe?
Alors il y a notre site internet, okay. BAMP.fr, où toutes les informations sont réunies, où il y a toutes les informations sur l'infertilité d'une manière générale, sur les actions à mener, sur la façon dont on peut adhérer à l'association, parce qu'il faut savoir que plus on est d'adhérents et plus on a de poids au niveau politique, au niveau des médias, oui. etc. Parce que quand on représente 500 adhérents, c'est pas la même chose que quand on représente 1000, 2000 adhérents, etc. Au niveau, voilà, on a plus de poids. Et pour contacter Virginie, c'est son adresse, c'est collectivebamp@gmail.com.
Super. Bon, bah écoutez, un immense merci à vous. On espère donc que cet épisode pourra, voilà, déjà, en tout cas déclencher déjà ne serait-ce que des réflexions, des discussions, et puis bah, permettre un peu à la communauté qui est parfois silencieuse, pas parce qu'elle n'a pas envie d'en parler, mais peut-être par gêne et par peur, vraiment de se mobiliser et de faire encore plus de bruit. Je vous souhaite une très belle journée, un bon 14 juillet, et puis je vous dis à très bientôt.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de cette hors-série dédiée aux lois bioéthiques. Un immense merci à mes invités, Stéphanie et Virginie du collectif BAMP, de s'être prêtées au jeu de l'interview et de nous avoir expliqué justement leur vision et leur mobilisation. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer la conversation et discuter de cet épisode, rendez-vous sur Instagram. Vous retrouverez la vignette de cet épisode et vous pouvez discuter dans les commentaires directement. Et pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet www.alorscestpourbientôtpodcast.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur nos invités ainsi que le questionnaire à remplir si vous souhaitez participer pour vous-même raconter votre histoire. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à mercredi prochain.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.